en dirai des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Quand on entend sa musique, beaucoup pensent à Miles Davis et pourtant il a un son bien à lui, ce trompettiste dont la musique métissée s'inscrit à la croisée des genres. Éric Truffat clôturera cette année le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés qui se termine le 27 mai à Paris, à l'Odéon, et pour l'occasion, il reformera Bending New Corners avec ses musiciens et avec le rappeur Nia en featuring. L'occasion de revenir sur cet album mythique sorti en 1999, sur son grand frère d'un an, The Down, qu'il a fait connaître au grand public, et sur l'ensemble de son parcours marqué par un souci constant d'explorer de nouveaux territoires sonores. Éric Truffat est donc avec nous et vous m'en direz des nouvelles.
Me say what must be, as for me, I'm on. Try to walk in my integrity, so Lord, have sweet mercy on me. Set me free and redeem me, no matter what must be, must surely be, as for me. I try to walk in my integrity, so Lord, be merciful unto me. I'm the son of the tribe, I'm off the lead, and as a right scribe, I trust in the Lord, therefore I don't slide, I don't slither. When I deliver the kebab, Jaja opens every door, when access is denied, rust are not disqualified. Almighty God has never died, and Jah no dead to spit it deeper than the riverbed. And if you're weak and you're wicked, you'll drown like a piece of lead. So wise up, dread uprise instead of kicking it with the wicked workers of iniquity. It's sick to see the way the forces of trickery be disrespect. In human dignity, trying to get rid of me, but we reason critically and carry the banner of victory, no diggity.
Bonjour Éric Truffat.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Sweet Mercy, c'est le titre qui ouvrait donc cet album Bending New Corners il y a 20 ans, en 1999. Pourquoi y revenir aujourd'hui? Vous aimez les anniversaires?
Pas particulièrement. Faites pas particulièrement mes anniversaires. Celui-là était quand même singulier parce que. C'est un album qui nous a fait connaître au grand public et on avait envie de le rejouer. Quoi. Et c'est quand même l'album que j'ai le plus vendu.
Oui, en fait, tout avait commencé quelques mois avant avec The Down. On peut dire que The Down, c'est le grand frère. C'est le grand frère de Bending New Corners. Il y a vraiment un continuum
le petit frère,
entre les deux. Mais c'est le petit frère, sauf qu'il est né avant The Down.
Voilà, mais en termes de durée de disque, il est plus court.
Oui. En quoi est-ce que ces deux disques-là ont constitué une charnière pour vous, un avant et un après?
Alors, ces deux disques-là ont constitué une charnière dans la mesure où je suis passé d'un premier disque chez Blue Note qui était de facture hard bop à une musique influencée par la musique électronique anglaise, à savoir la drum and bass.
Alors, comment est-ce que vous l'avez découvert précisément cette drum and bass?
Je faisais partie d'un collectif avec mon bassiste Giuliani. On jouait avec des DJ une fois par mois à Londres, dans un club qui s'appelait le Blue Note, programmé par Goldie. Et dans cette musique, dans ce club, il jouait cette musique. Et Giuliani aussi composait ce genre de musique. C'est grâce à lui que j'ai découvert ça.
Mais c'est-à-dire que, si je vous entends bien, Éric Truffat, ce nouvel album, ce tournant-là, c'est presque un concours de circonstances, quoi. C'est une affaire de rencontre. C'est plus la musique qui est venue à vous que vous qui êtes allé la chercher?
Totalement, c'est une affaire de hasard, comme beaucoup de choses merveilleuses dans la vie. On provoque les hasards aussi. Mais on baignait dans un milieu musical et on s'est dit on va l'adapter à l'acoustique.
Mais vous étiez déjà, avant d'aller justement jouer au Blue Note à Londres, un amateur de musique urbaine, un amateur de musique électro?
Bah oui, parce que moi j'étais adolescent dans les années 70, donc j'écoutais Kraftwerk, Tangerine Dream, Klaus Schulze, et toute la musique allemande. Donc j'étais très très proche. Donc quand j'ai entendu la drum and bass, j'ai juste vu que... Ils avaient doublé les rythmes et puis poussé le volume de la rythmique. C'était ça la grosse différence, mais je m'y reconnaissais totalement.
Et c'était une évidence pour vous justement de mélanger ces deux genres musicaux?
Oui, c'était vraiment logique.
Pourquoi?
Parce que déjà dans mon premier disque, avant la signature chez Blue Note, j'avais déjà fait appel un bassiste qui jouait de la basse électrique, c'est-à-dire Giuliani, pour pouvoir avoir un répertoire issu des années hard bop que j'aime beaucoup, et un répertoire plus contemporain, plus moderne. Et donc là, il s'offrait à nous une porte qui n'avait pas été ouverte. Et ça arrive pas tant que ça dans notre vie. Et il faut l'ouvrir quand c'est le cas.
So where do we go from here? Let's get it on beyond man-made frontiers and persevere for years like space station near. With knowledge of self-determination to pierce interior horizons and cosmic spheres. We draw the future near like black hole pioneers. Make the dark soul matter appear out of the unknown. Full scale, full blown, and strip it to the bone like a lone heart patrolling uncharted zones. I guess today I take a different way home, pass by the rainbow throne like a rolling stone. Wherever I lay my hat, yeah, you know where it's at. Forward on, back on the road, jack like Kerouac. I hit the track with the soul clap, and I don't backpedal. And you know that Selassie got my back on the level. That's the cold facts. Yes, we got it like that. Got to make sure we flip the next score. Pushing on till we vex all. And still wanna get more flavors to blend, more experiments with them sonic signals to send. If there is danger imminent, if there are borders to transcend, when we still represent, inventing crazy shit like a trip never ending, bending.
Bending New Corners, le titre qui a donné son nom à cet album dont vous fêterez donc les 20 ans lundi prochain à l'Odéon, Eric Truffat, dans le cadre du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés, accompagné du rappeur Nia, dont on a entendu la voix à l'instant, mais aussi des trois autres membres du Eric Truffat Quartet. On évoquait tout à l'heure donc le Marcello Giuliani, il y a aussi Patrick Muller au clavier et Marc Herbetta aux percussions. Ça fait quoi de les retrouver ?
Oh bah ça fait du bien, mais on s'est jamais vraiment quitté, donc on s'est pas retrouvé. Mais de refaire ce répertoire, c'est un grand moment de communion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu une période de leur vie sur ce disque-là, donc tout le monde est heureux. Donc le concert, il y a une sorte de ticket magique qui arrive à chaque fois.
Vous avez besoin de répéter pour ce genre de performance ou c'est...
Oui, j'ai dû réécouter le disque et puis on a dû répéter deux jours, bien sûr, parce qu'entre-temps, j'ai fait à peu près 17 disques, donc il a fallu qu'on se réapproprie que le répertoire.
Bon, mais le public sera surpris, ça ne va pas être évidemment à l'Odéon exactement comme sur le disque.
Non, c'est de toute façon...
Ça ne peut pas.
Ça ne peut pas être comme le disque, dans la mesure aussi, d'ailleurs je le dis au public, c'est que dans le disque, il y a deux morceaux qui sont complètement improvisés. Un qui s'appelle « Laisse » et un qui s'appelle « Mort ». Donc on les refait chaque fois, mais forcément, on improvise quelque chose d'autre.
Et Nia, il sera là ?
Naya, il est là, bien sûr, il est complètement là, il n'a plus de dread, il a un costume, mais il est toujours aussi bon.
Racontez-nous votre rencontre avec lui, comment est-ce que...
Alors ce rappeur, je l'ai rencontré de manière assez simple, c'est qu'il avait un groupe de rap, il m'invitait dans son groupe, et Giuliani, bassiste avec qui nous officions, était aussi dans son groupe. C'est comme ça que je l'ai rencontré.
Et alors, il était déjà évident pour vous qu'il allait poser son flow sur
pas
votre
du tout,
musique ?
Pas du tout, ça a pris du temps.
Mais comment ça se passe une rencontre avec vous, Eric Ruffa? Comment est-ce que lorsqu'on croise quelqu'un, là, ami effectivement d'un de ces musiciens, on se dit, bon ben voilà, c'est bon, on est fait pour travailler ensemble?
Non, déjà, c'est un peu comme les couples, on ne sait jamais si on est fait avant d'avoir essayé. On peut pressentir. Hein. En l'occurrence, Naya, j'étais dans son groupe et il était aussi dans ce collectif qui jouait à Londres une fois par mois. Et une fois, on s'est dit à Londres, on va, au lieu de faire avec des DJ, on va essayer avec le batteur. C'est comme ça qu'est venu le... Donc on a filé les disques de drum and bass à notre batteur qui a travaillé ça. Et on a, au milieu de la boîte, on a fait une... C'est des clubs avec un volume assez conséquent. On a fait une version acoustique. Ça a très très bien marché. C'est suite à ça qu'on a enregistré The Dumb.
Alors comment...
Mais Naya, on était déjà dans le même milieu depuis 3-4 ans. Donc c'était... on avait déjà fait des concerts ensemble, j'avais déjà invité aussi avec mon groupe, donc c'était tout ça avait mûri et clos au bon moment.
Et comment est-ce que vous avez travaillé concrètement avec lui pour bâtir cet album?
L'album Bending New Corner, il n'a pas été travaillé, c'est-à-dire qu'on a joué The Dawn et voyez, moi, il y a 20 ans, quoi. Et donc, on était, tout au début, on était vraiment très inspirés. On n'avait pas besoin de beaucoup chercher. Et donc, pendant les soundchecks, c'est-à-dire quand on faisait les réglages de son, eh ben, on inventait des morceaux et c'est comme ça qu'est né l'album.
Tapping bottles and twisting caps, I don't mess with that. Looking for trouble and rapping slack, I'm not going out like that. Cause I'm no barbarian, nor a bar fly. But give me 24 bars to get high bar hopping. Style from measure to measure till the last drop. And it's all for your pleasure, man, be rocking. Dope music like the rocks. There ain't no toxic side effects, trust me. We're not gonna let our neurons get rusty. Like the dirty old shorties, scotch to the bloxy. They aren't just sloppy copies of good old Charles Bukowski. Talking shit and grabbing Jim Brodsky. And the girlies nowadays, they all wanna be Foxy Browns. They love to get down to the sound of the lyrical blues. It don't shock me, it just gives me the blues. I'm like, what's the use? Sipping gin and juices, grinning like fools, just guzzling till they puzzled and confused. It's useless. Me, I choose this. The strong drink is raging and wine is a mock. And I'm a Rasta, rebel rocker. I've got the verbal earth for your mind. Cause I'm the voice doctor. I got the verbal earth for your mind. Cause I'm the voice doctor.
Bukowski, chapter 1 dans VMDN sur RFI avec notre invité Eric Truffa aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils apportent les mots? Qu'est-ce qu'apporte une voix comme celle de Naya à votre musique, Eric Truffa?
Les mots, ça, déjà, ça nous apporte beaucoup puisque c'est la manière dont on communique en ce moment. Et la voix, je pense, démocratise le jazz.
Ah, c'est-à-dire que c'est une façon de le rendre plus populaire, de toucher des cœurs,
moi, je fais des concerts,
des
oreilles. C'est pour toucher les gens, de toute façon.
Ah oui, alors justement, pourquoi y a-t-il besoin, sur certains morceaux, visiblement, d'une voix pour la populariser encore plus, cette musique?
La musique que je préfère, moi, elle est avec des voix, quand même. Ce que j'écoute, c'est plus de la chanson que de la musique instrumentale.
Oui, vous êtes un grand amateur de chansons. C'est vrai que vous avez beaucoup travaillé aussi avec des chanteurs. Il y a notre rappeur Oxmo Puccino, par exemple, sur l'album Denis
oui,
Denis en 2016 avec Roquette Traoré. Hein, d'ailleurs,
Christophe,
Sophie Hunger dans un genre un peu plus folk.
Mais moi, par exemple, en jazz, ce que j'écoute le plus, c'est Louis Armstrong avec Ella Fitzgerald, parce que je les trouve formidables. Et c'est vrai que quand ils chantent, c'est mieux pour moi, je préfère ça qu'aux instruments.
C'est juste une question de goût, il n'y a pas d'explication particulière.
c'est de toute façon l'instrument le plus direct, la voix.
Est-ce que c'est un instrument comme les autres ?
La voix ? Ben non, puisque vous en jouez sans le travailler, sans faire 3 heures de vocalise, vous pouvez m'interviewer, donc c'est un instrument très différent des autres. Et par exemple, Armstrong, il n'a pas travaillé la voix. Même Ella Fitzgerald, elle s'est présentée une audition de danse, et elle a vu que toutes les filles avant étaient quand même plus menues qu'elle, et puis dansaient mieux, et tout à coup, elle s'est dit, bon, je vais chanter. Et du coup, il y avait le programmateur du Cotton Club qui l'a engagée le soir même, et puis sa carrière était fulgurante.
Alors, la voix, les différents styles musicaux, donc la fusion du jazz, du rap, de rythmique sortie de la sphère électro, donc à travers ces deux albums, The Darn et Bending New Corners. En fait, depuis le début de votre carrière, avec Truffaut, vous avez eu une obsession. C'est justement cette fusion, c'est le métissage des musiques, faire des rencontres, sauter des barrières.
Oui, c'est pas une obsession. Effacer les frontières. C'est juste ce que je suis. Duke Ellington, il a une phrase très juste. Il dit, le jazz, c'est un arbre avec des racines qui sont le blues, et puis l'arbre, ben, il pousse chaque fois, il a des nouvelles feuilles, et on ne peut pas empêcher la vie de donner ça. Alors on aime ou on n'aime pas, mais face à la vie, on ne peut que constater que c'est en constante évolution. Et voilà, moi je suis né avec, avec Joe Dassin, après j'ai passé mon adolescence avec Led Zeppelin, après la musique électronique, après tout le jazz, après le free jazz, et tout ça... imbibe en moi, vous voyez, j'aime autant aussi Count Basie, Duke Ellington que Led Zeppelin. D'ailleurs, la semaine passée, j'avais arrangé mes morceaux pour un big band à Sofia, vous voyez, à quel point je suis multiple, et, parce que c'est comme ça, c'est ce que j'aime.
Oui, parce que c'est vrai que votre parcours vous incite effectivement à ouvrir peut-être un peu vos oreilles, c'est sûr, et vos fenêtres aussi, puisque votre père était saxophoniste.
C'est mes goûts, c'est mes envies. Quoi.
Hein, père saxophoniste, il vous a emmené dans les bals populaires, vous êtes passé par le conservatoire aussi de Genève. Oui. C'est vrai que vous avez aussi participé à un orchestre d'opéra ?
Non, j'ai joué dans des opéras, oui. Così fan tutte, Carmen, des choses comme ça.
Ah d'accord, donc la musique classique est aussi quelque chose dont vous vous êtes nourri ?
Ah ben oui, il y a 4 ans j'ai composé une pièce pour orchestre symphonique que j'espère bien jouer prochainement à Paris.
Donc vraiment c'est explosé.
Et l'année passée j'ai écrit une pièce pour voix et trompette, donc on est très très loin de Bending New Corner.
Là. Oui, et puis il y a aussi les chants religieux dans les églises du sud de la France, hein, du côté de Marseille aussi. Chants liturgiques médiévaux et la trompette, là aussi, c'est quand même un mariage qui peut être très étonnant, non ?
Bah non, ça marche très bien. C'est pas moi qui ai inventé ça, d'ailleurs. Jan Garbarek, c'est le premier à avoir fait un album de chants grégoriens avec du sax.
Donc quelle limite, quelle frontière est-ce que vous vous imposez lorsque vous cherchez.
Oh, j'ai des frontières politiques, par exemple, j'ai un peu de problème avec la batterie fanfare et le clairon. C'est pas ce que j'aime vraiment. Voilà, des frontières de goût.
Vous faites ce que vous aimez, quoi, tout simplement.
Ah oui, c'est comme ça qu'on arrive à avancer dans la vie, c'est avec son cœur.
Et en ce moment, quel territoire...
Si on a la chance de pouvoir faire ça, je veux dire.
Et en ce moment, quel est le territoire que vous explorez, Éric Truffaut ?
Le territoire que j'explore, c'est le dernier album que je viens d'enregistrer avec mon groupe, qui est plutôt dans la suite de mon quartet, mais avec plus de sons électroniques issus des vieux synthétiseurs des années 70.
Donc il s'agit d'inventer tout en regardant aussi dans le rétroviseur, quoi, tout en se nourrissant de l'histoire.
C'est comme ça qu'on évolue. Quoi.
Oui, mais est-ce que justement pour évoluer, le jazz a aussi besoin des autres musiques ? Le jazz ne peut pas se suffire à lui-même.
De toute façon, le jazz, c'est une musique qui est née d'un mélange à la base. Hein. C'est les Africains qui ont entendu la polka quand ils étaient esclaves et qu'on fait le ragtime ou le blues. C'est né d'un mélange, de toute façon.
Watt, extrait de Kind of Blue, l'album de Miles Davis en 1959. C'est un classique, c'est un album phare du jazz qui fête donc cette année ses 60 ans, votre anniversaire, Eric Truffaz. Et c'est vrai que cet album-là, il paraît que pour vous, ça a été un choc, une révélation, on peut dire ça?
Oui, Kind of Blue, c'est un album formidable parce que le groupe joue beaucoup de morceaux à des tempos lents, à des vitesses assez lentes. Donc pour un adolescent qui débute, c'est très agréable, on peut suivre.
Ah d'accord, c'est en un apprenti que vous avez écouté cet album ?
Oui, c'est un des premiers disques sur lesquels j'ai pu jouer et avoir un plaisir inouï. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Kind of Blue. Et enfin, c'était du jazz qui me permettait de jouer par-dessus.
Avec donc le sextet de Miles Davis, alors les saxophonistes John Coltrane et Cannonball Adderley, les pianistes Wynton Kelly et Bill Evans, hein, qu'on a entendu au début de ce morceau, le batteur Jimmy Cobb, le contrebassiste Paul Chambers. Alors Miles Davis, si je vous dis Miles Davis, Eric Truffaz,
ah ben
qu'est-ce
Miles
que vous
Davis,
me répondez?
Il est très très important parce que c'est grâce à lui que je joue encore de la trompette. Pourquoi ?
Que vous jouez encore de la trompette. Pourquoi vous dites encore ?
Parce que je voulais arrêter la trompette dans les années 70, parce que la mode, c'était la guitare électrique. C'était ringard de jouer de la trompette. C'était quoi ? Fallait être Jimi Hendrix, fallait être Jimmy Page. C'était ça qui était intéressant. Même pour les filles, hein, pour avoir l'intérêt qu'une trompette...
Oui, parce difficile. Que la trompette, ça ne permet pas de chanter en même temps aussi. Donc forcément, pour les petites balades amoureuses, c'est pas très pratique.
Et j'ai découvert les disques électriques de Miles. Et après avoir fait un groupe de bal, j'ai fait un groupe de jazz électrique, jazz rock, on va dire. Mais ça, c'est vraiment Miles qui m'a permis de me dire que la trompette pouvait être encore dans le coup.
Mais quel est le son Miles Davis, qu'est-ce qu'il a apporté précisément à la trompette? Et pourquoi le son de la trompette de Miles Davis vous a-t-il à ce point touché?
Ah, il me touche encore beaucoup, le son de Miles Davis. Hein. Il est élégant, il est doux et tranchant en même temps. Et puis, Miles Davis a amené la sourdine Harmon.
Alors, voilà. Vous avez votre instrument avec vous, Eric Truffaz, et vous avez une sourdine. Alors, ce qui est... Voilà. Décrivez-nous déjà pour commencer cet instrument qui est là posé sur la table. Décrivez-nous avec vos mots votre trompette et cette sourdine.
Ça, c'est une trompette pocket, hein, donc qu'on peut mettre dans le dos parce qu'elle est très petite. C'est la trompette que jouait Don Cherry. Et la sourdine est une sourdine Harmon. Celle-ci est assez jolie parce que c'est une amie qui me l'a repeinte. Donc avec des coquilles d'œufs et puis une peinture laquée. Le principe de ce que Miles a apporté, qui m'a quand même beaucoup influencé dans mon premier disque, et puis après, même dans le disque que je viens d'avoir, c'est que cette sourdine Harmon permet d'avoir un son très doux. Avant, les sourdines n'étaient plus perçantes, ce qui est le cas toujours dans la musique classique et puis aussi dans les big bands, même si les trompettistes mettent la sourdine. Et là, ce son très doux, pour moi, se rapproche un peu de la voix. Bien. Donc je vais vous jouer un petit peu.
Eric Truffaz sur RFI dans VMDN. Alors,
je n'avais pas cette sourdine et on peut dire que tous les auditeurs auraient mal aux oreilles et que l'ingénieur du son aurait fait un saut de 3 mètres en arrière.
Voilà, on a eu peur hein, quand on vous a vu arriver, mais effectivement, heureusement que vous aviez la sourdine. Alors justement, à propos de Miles Davis, Eric Truffaz, certains critiques, certains spécialistes du jazz ont comparé votre jeu, votre style, votre phrasé, notamment à celui de Miles. Est-ce que vous acceptez le compliment? Peut-être même que vous revendiquez ce compliment?
Oh non, pas du tout. Non. C'est comme... il faut comparer ce qui est comparable, vous voyez. Miles Davis, il s'est inscrit dans le temps. C'est-à-dire qu'il a traversé... C'est comme Picasso, c'est des...
Oui, il a eu des périodes.
C'est des gens qui ont... Oui, puis il est quand même né une période où il y avait les chevaux, il est mort, il y avait les computers. Donc déjà, c'est incomparable. Il joue beaucoup mieux que moi, c'est incomparable, ça aussi. Et puis, notre point commun, c'est que j'aime jouer avec les silences. Et puis, que mon souci est de renouveler la forme de la musique en m'inspirant des nouvelles formes qui naissent et que j'entends. Voilà.
Oui, c'est.
Et Miles avait ce souci-là. C'est le plus gros point commun.
Voilà. Mais quand vous jouez, est-ce que vous avez en tête Miles Davis?
Pas du tout, j'ai pas besoin. C'est comme quand je parle, je fais des silences. Donc c'est la même chose. C'est, mon être est comme ça. J'ai pas besoin d'avoir ça en tête. Mais, c'est vrai que quand j'engage des nouveaux musiciens, je leur dis, je vous engage pour la manière dont vous savez jouer, mais je vous engage aussi pour la manière dont vous savez arrêter de jouer.
Et parmi les amis de Miles Davis, parmi ceux qui l'ont beaucoup et régulièrement côtoyé, il y a un photographe, Jean-Pierre Leloir, photographe français, qui a pas mal bourlingué en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe, qui a travaillé pour des magazines comme L'Express, Le Nouvel Observateur, qui a cofondé le magazine Rock and Folk, mais qui a aussi travaillé pour plusieurs revues de jazz, comme Jazzman ou Jazz Magazine. Et vous êtes sa fille, Marion Leloir, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre. C'est vous qui préfacez ce très beau livre, Miles Davis, Les sessions photographiques de Jean-Pierre Leloir, édité par Glénat et que Eric Truffat feuillette depuis le début de cette émission, c'est-à-dire qu'il est absolument passionné. Quelques 200 photos hein, dans cet ouvrage, certaines sont inédites. Il y a aussi les textes du journaliste Philippe Margotin qui les commente et qui nous raconte à travers ces photos l'histoire, la personnalité, la façon de jouer, le son de Miles Davis,
la
musique, le compositeur. Il a rencontré et suivi énormément d'artistes, à votre père,
oui,
Jean-Pierre
oui.
Leloir. Est-ce qu'il avait une relation particulière avec Miles Davis?
On peut dire qu'elle est particulière parce que Miles Davis l'acceptait alors qu'il avait une personnalité assez fermée, on peut dire. Et cependant, il y avait ce respect mutuel qui faisait qu'il acceptait toujours la présence de mon père dans les répétitions, dans les concerts.
Oui, il le suivait avec prudence. C'est ce que vous écrivez dans la préface. Avec prudence, ça veut dire quoi ? Étonnant le mot prudence.
Oui, je pense que c'était aussi c'est ce qui pourrait caractériser le comportement de mon père avec les artistes, c'est-à-dire prudence par rapport à leur travail, à leur musique, et ne pas troubler, ne pas parasiter, ne pas faire de bruit incongru pendant un solo. Et avec cette prudence, je pense qu'il a réussi à se faire accepter de beaucoup d'artistes.
C'est-à-dire qu'il faisait à la longue un peu partie du décor,
oui,
quoi, essayer de s'effacer.
D'abord, il était aussi auditeur. Il aimait beaucoup la musique et il écoutait ce qu'il était en train de photographier. Sa présence à un concert était pas seulement de photographier, mais aussi de découvrir les musiques, etc. Et voilà, il se laissait emporter. Il racontait souvent qu'il s'était rendu compte à un concert de Ray Charles qui déclenchait en rythme. Il allait, d'autres artistes qu'il aimait beaucoup, il allait aux trois concerts qui pouvaient être donnés dans une journée, plus la répétition. Il était très, très assidu et je pense que les artistes lui en étaient reconnaissants.
Alors il y a beaucoup de photos de concerts, évidemment, de répétitions et des photos d'interviews, de séances d'enregistrement. Il y a quelques photos un peu plus intimes, elles sont plus rares hein, dans l'album, mais elles existent. Par exemple à Antibes, hein, des photos sur une plage, sur la place de Jouan les Pins, on le voit jouer au Bilboquet. Voilà, on le voit jouer au Bilboquet. Hein, par exemple, ça c'est quand même une photo, j'imagine, extrêmement rare. On a rarement vu Miles Davis ainsi.
Mais je pense que cette intimité, elle était particulière au festival. Parce que les artistes habitaient dans le même hôtel. Mes parents descendaient dans l'hôtel où descendait Armstrong. Et par les fenêtres, ils l'entendaient se faire la bouche avant un concert pendant qu'eux se préparaient. Enfin, il y avait un mélange entre les artistes et les personnes qui venaient participer au festival.
Alors Eric Truffat, vous feuilletez donc comme
oui,
vous le disiez l'album de photos depuis le début de cette émission. Il y en a une là comme ça par exemple que vous avez là sous les yeux et qui vous inspire particulièrement. Chaque photo raconte une histoire en fait.
Moi, ce qui m'inspire beaucoup dans ce livre, c'est les périodes, et ça exprime le parcours de Miles. Ça finit par une photo de Kenny Garrett, et ça, effectivement, ça. Et puis, il y a l'ensemble de mes héros dans ce livre. Je suis absolument fan de Red Garland, le pianiste, de Coltrane, de Cannonball Adderley. Donc, pour un musicien qui vit avec ces sons de ces gens-là, c'est merveilleux. Quoi.
L'essentiel des photos ont été prises à Paris, Marion Leloir, hein, notamment par exemple la photo de couverture hein, de l'album qui a été prise salle Pleyel en 1956. Il y a beaucoup de photos qui ont été prises notamment au Club Saint-Germain, hein, oui, qui est vraiment un très haut lieu du jazz s'il en est, hein, où Boris Vian avait ses habitudes, on a vu se produire, là je ne veux pas pouvoir donner de la liste, mais enfin, Duke Ellington, Django Reinhardt, Marcia Solal, Kenny Clarke, Coleman Hawkins, Lester Young, etc. Enfin bon, vraiment. Et donc, évidemment, Miles Davis, qui venait très souvent à Paris. On connaît d'ailleurs sa relation avec Juliette Gréco, autre grand nom, évidemment, de Saint-Germain. Il y a aussi cette photo couleur de Jean-Pierre Leloir. On est en 1957, hein, l'année où le Club Saint-Germain devient le temple de l'esthétique davisienne ou davisienne. Hein, voilà, c'est comme ça qu'écrit Philippe Margotin. On peut dire, Eric Truffat, qu'il y a un jazz Saint-Germain et que Miles Davis en est une des figures de proue.
Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, je suis trop jeune pour vous répondre à ça. Parce
oui,
que
mais enfin, vous êtes un tout petit peu intéressé à l'histoire du jazz.
Ah oui, oui, oui.
Légèrement, mais... hein.
Mais l'expérience des clubs...
Non, ce qui est très important, je pense, et en tout cas, si on peut dire qu'il y a un jazz Saint-Germain, c'est il est incarné par le disque Ascenseur pour l'échafaud. Parce que c'est les gens qui jouaient à cette période-là, et puis c'est les gens qui aimaient Miles, qui l'entouraient, dont Gréco, dont Boris Vian qui venait assister. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, Saint-Germain était un des bastions importants dans l'évolution du jazz.
Alors, l'ascenseur pour l'échafaud est évidemment évoqué hein, à l'intérieur de cet album. Par exemple, il y a cette photo-ci, là, que vous avez devant les yeux.
Ce qui est merveilleux, c'est que c'est, pour moi, en tout cas, c'est qu'on voit le matériel d'enregistrement qu'il utilisait. Les micros, les microphones. On les voit, ils sont très très bien dessinés. Donc un spécialiste, il sait exactement. Et puis, moi j'ai toujours été fasciné par l'élégance vestimentaire de Miles. Même en enregistrement, il a une écharpe en soie incroyable, une bague. Enfin, il a toujours des petites choses qui le différencient du commun des mortels.
Coconuts de la bande originale d'Ascenseur pour l'échafaud, le film de Louis Malle en 1957, musique gravée selon la légende en une nuit par Miles Davis. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez cette musique, Eric Truffat?
Moi, je ressens plusieurs choses. Sur le plan musical, je suis impressionné à quel point c'est influencé par le blues. Hier, j'ai écouté John Lee Hooker et c'est ce qu'il chante, quoi. Miles, il utilise toujours les mêmes notes. Et il revient tout le temps là-dessus. Après, l'espace qu'il utilise est absolument magique. Alors ça, et son son lui permet de jouer comme ça. Et ce que j'aime là aussi, c'est que c'est vraiment Ascenseur pour l'échafaud, c'est un traité antiraciste. Parce que c'est des blancs qui jouent avec Miles. Puis cette musique, elle sonne vraiment comme si elle venait du Mississippi. Et je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire beaucoup de choses.
Alors, Ascenseur pour l'échafaud est évoqué à travers plusieurs de ces sessions photographiques de Jean-Pierre Leloir que vous préfacez, Marion Leloir, ouvrage paru, je le rappelle, aux éditions Glénat. Il est impressionnant, hein, le fond photographique de Jean-Pierre Leloir. Combien de photos en tout, à votre connaissance? Parce qu'il y en a peut-être quelques-unes que vous n'avez pas trouvées.
Il y en a beaucoup que je ne connais pas. Oui. On estime qu'il y en a 300 000. C'est 50 années de travail.
Oui, avec des artistes extrêmement, extrêmement différents. Et puisqu'on parlait de jazz, il a beaucoup investi, évidemment, dans cette musique qui était vraiment sa passion. Mais il a aussi suivi des gens comme Piaf, comme Trainé.
Le rock, la chanson,
Johnny Hallyday, Alain Bachung également. Donc extrêmement varié. Et alors, ce qui est aussi très impressionnant, c'est qu'il consignait ses rendez-vous dans des agendas. Et vous en publiez quelques bonnes feuilles, hein, dans cette ouvrage. On sait très précisément quand et à quelle occasion a été prise telle ou telle photo.
Et on voit l'éclectisme des artistes dans une même journée. Ça peut être la variété au Butte-Chaumont et puis le jazz le soir. Très très vaste éventail de sons, de types d'artistes.
Mais ce sont des photos qu'il prenait sur le vif, c'était des photos qui étaient souvent aussi des photos de presse, donc avec aussi une dimension de communication. Il avait une totale liberté avec ses artistes, ou au contraire c'était des photos très dirigées?
Je pense qu'il n'envisageait pas de destination particulière à ses photos. Il faisait ses images et ensuite elles étaient proposées à l'illustration, que ça soit l'édition phonographique, les magazines, etc.
Alors, il y a quelques photos de scènes que je voudrais qu'on évoque avec vous pour terminer, Eric Truffat. Par exemple, celle-ci, bon, c'est une attitude assez célèbre, hein, de Miles Davis, qui a suscité d'ailleurs souvent des polémiques, puisque parfois, il se tenait de dos face au public.
Oui, ça m'apparaît. Moi, ça me choque pas du tout parce que...
Ça n'a pas plu à tout le monde à l'époque.
Hein. Quand on va voir un orchestre classique, le chef, il est face aux musiciens. Donc là, il donnait des indications. C'est pour ça qu'il tourne le dos au public.
Oui. Il est très attentif aux musiciens.
On ne dit rien. On ne dit jamais... On ne critique jamais un chef d'orchestre classique parce qu'il est dos au public.
Non, absolument. Mais alors c'est Philippe Margotin qui le dit effectivement dans ses légendes. Il tourne souvent le dos, ce qui a parfois heurté son public. Alors il expliquait que c'était pour se concentrer. Hein. C'est ce que nous dit en tout cas Philippe Margotin.
Ah bah oui, c'est
pas vous le confirmer. Voyez.
Je pense pas du tout que c'est par snobisme. Hein. C'est réellement là, on voit qu'il regarde le batteur. Il fait des signes, il faisait des signes aux gens. Quoi. Moi, je l'ai vu pas mal de fois. Miles, il tournait fin de sa vie, il tournait très peu le dos public. Il arpentait la scène de long en large, comme un chanteur le ferait. Mais
quel homme de scène était-il pour vous, Eric Truffat? Décrivez-le nous, effectivement,
lorsque, avec ses musiciens. Lorsque je l'ai vu la première fois, quand il est revenu avec sa période électrique, c'était à Montreux, j'avais la place numéro 2. et il jouissait d'un tel passé, d'une telle aura, de toute façon que c'était un magicien qui arrivait sur scène. Avant qu'il joue, tout le monde était... Je pense que c'était pareil avec la Callas, par exemple. C'est et c'était un magicien. Autant, je pense que sa qualité sonne, il était autant magicien par le son que par l'attitude.
Alors l'attitude précisément, on la voit aussi hein, sur ces
deux photos
en couleur, c'est les costumes. Et puis c'est la position aussi. C'est toujours Philippe Bargotin hein, qui parle hein, lorsqu'il commente ces photos. Ils disent que donc ces deux photos que vous avez devant vous qui ont été prises sur la scène de l'Olympia, on le voit comme ça en position courbée, les jambes
alors
légèrement écartées.
Je dois vous dire une chose.
Allez-y, il est en costume blanc.
Je vais vous confier une chose, c'est que la position courbée. Elle permet d'avoir plus de compression abdominale pour sortir des sons un peu forts. Mais surtout, quand on joue avec un orchestre qui fait beaucoup de bruit, on se rapproche la tête des endroits où sort le son, des haut-parleurs qu'on a sur scène. Ça vient de ça aussi.
D'accord. Et donc vous adoptez aussi naturellement et sans forcément y réfléchir ce genre de position.
Ça peut m'arriver si j'entends pas assez, quoi. Mais bon, j'essaye de pas trop me courber parce que je tiens à la verticalité de ma colonne vertébrale.
Voilà. Petit secret de scène et de scénographie signé Eric Truffat, qu'on pourra d'ailleurs applaudir bientôt sur scène, justement. Donc il y a le concert à l'Odéon lundi prochain avec Naya dans le cadre du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés et aussi ensuite d'autres concerts, hein, le 6 juillet, vous serez à Vienne, au Festival Jazz à Vienne, le 18 à 7, le 2 août à la Villa Domergue à Cannes, le 1er octobre à Jazz Contrebande, hein, également avec Naya, à l'Alhambra de Genève, merci beaucoup, merci
et
également.
Vendredi, samedi, je suis à Coutances avec Angélique Kidjo.
Voilà, bah écoutez, merci aussi de cette précision, merci également à vous Marion Leloir, Miles Davis,
merci.
Les sessions photographiques de Jean-Pierre Leloir commentées par Philippe Margotin chez Glénat.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et avant de se quitter, direction le Brésil et la banlieue de Rio de Janeiro, à travers des cours de hip-hop, une quarantaine de petites filles âgées de 6 à 13 ans retrouvent confiance en elles dans une société machiste et raciste. Ce projet intitulé Cypher Kids, grâce à des cours gratuits toutes les semaines, aide donc ces enfants à s'assumer à travers la danse urbaine, une discipline souvent réservée là-bas aux garçons. Reportage pour RFI de Sarah Cozzolino.
Vamos lá, 5, 6, 7, 8 et 1.
Nous sommes à Duque de Caxias, dans une ville pauvre de la banlieue de Rio de Janeiro. Dans un vieux hangar aménagé en salle de danse, une vingtaine de petites filles répètent des mouvements de breakdance.
Je me réveille en dansant, je vais me coucher en dansant, je vais à l'école en dansant. La danse, c'est devenu ma vie.
Sophia Camilo a de jolis cheveux crépus, d'un blond très clair, la peau blanche et des traits africains. Son albinisme l'a souvent empêchée de mener une vie normale.
J'étais presque dépressive, presque. Je souffrais de harcèlement scolaire. Tout le monde se moquait de moi. Et un jour, je n'ai plus supporté leurs insultes. Et ma mère m'a inscrite ici.
À 10 ans, Sophie est déjà mannequin et a été victime de racisme dans ce cadre, traité de singe blanc par un producteur. Depuis qu'elle danse au sein du projet Cypher Kids, elle a retrouvé peu à peu confiance en elle. Et sa mère Liliane tient beaucoup à ce rendez-vous hebdomadaire.
C'est quelque chose qu'elle et sa petite sœur adorent. Elles se sont beaucoup développées grâce à la danse. Et nous, les parents, on est devenus une famille. Si une mère a n'importe quel problème, on va tout essayer de trouver une solution. On s'entraide et c'est un groupe très fort.
En cercle, les filles de 9 à 13 ans jouent en attendant que le cours des 6-8 ans se termine. Les types de cheveux et de couleurs de peau se mélangent, même si on retrouve plusieurs sarara, comme on les appelle ici. Des filles aux cheveux crépus et clairs, aux yeux bleus et à la peau foncée, souvent victimes de discrimination.
Ce sont des filles fortes. Chacune d'entre elles ont eu des choses différentes à surmonter. Mais elles sont toujours très enthousiastes. Ce sont de vraies combattantes.
Pour Diego De Jesus, créateur du projet, il était important que les cours soient gratuits pour inciter les classes sociales les plus pauvres à venir. Mais il n'avait pas prévu que les 40 élèves seraient exclusivement des filles.
Moi, je travaille avec le breakdance, une danse urbaine qui demande un certain niveau pour faire des acrobaties. En général, ce ne sont pas les filles, mais plutôt les garçons qui la pratiquent. Mais depuis que j'ai commencé le projet Cypher Kids et jusqu'aujourd'hui, il n'y a que des filles qui viennent, mais c'est super.
À la fin du cours, les filles se mettent en cercle et enchaînent les acrobaties, les figures au sol, sous l'œil attentif de Diego.
Beaucoup d'enfants qui viennent souffrent de harcèlement scolaire, n'ont pas confiance en eux. Certains ont des problèmes de santé, il y a des personnes autistes. Et quand ils arrivent, la danse les transforme et moi je m'occupe de tout le monde. Malheureusement, on n'est pas soutenu par l'État de Rio ni aucune autre institution, mais je fais ça avec beaucoup d'amour.
Aujourd'hui, c'est Lucia Alfonso, une professeure de breakdance du Portugal, qui entraînait les petites filles.
C'est super important de savoir arriver. On ne peut pas marcher en train de regarder le sol. Il faut lever la tête, il faut croire en nous, il faut dire on y va, comment on y va. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc j'ai donné quelques petites indications avant de commencer. C'était super à l'écoute avec le corps. En fait, le corps, il était super disponible à recevoir toutes les informations que j'ai données. Et ça, on ne trouve pas partout, ça c'est vrai. C'était génial.
À 30 ans, Lucia a dû se battre pour s'imposer sur la scène du hip-hop en tant que femme. Mais quand elle voit les jeunes filles de cette banlieue de Rio, elle veut croire que la relève est assurée. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Une pause et c'est l'heure du journal sur RFI. On se retrouve demain avec la chanteuse Venmas qui signe son grand retour avec un triple CD best-of et un livre dans lequel elle revient sur son parcours. Réminiscence est édité chez Flammarion et vous m'en direz des nouvelles.